Europe 1. Sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Vôtre, l'émission qui chaque après-midi n'a pas peur d'aborder de front les questions les plus polémiques de l'histoire, politique, économique, religieuse et même aujourd'hui, capillaire. Qui portait une perruque? Qui n'en portait pas? Pour y répondre, un animateur vedette qui ne porte pas de perruque, mais dont la folle crinière n'est pas 100% naturelle non plus. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Votre carrière ne tient qu'un cheveu. Aujourd'hui, on réunit trois personnages de l'histoire, voire même plus, puisqu'il y a un gang, des personnages qui ont eu recours au postiche. Lui s'en est servi pour ne pas se faire repérer. Je vous raconte l'histoire du grand général carthaginois qui a marché avec ses troupes dans les Alpes avant de marcher sur Rome, le guerrier Hannibal. Puis, autre époque, autre perruque, celles arborées par le célèbre gang des postiches lors de leur braquage de banque dans les années 80, des déguisements de farce et attrape avec lesquels ils ont fini par se faire attraper. Mais ça a mis du temps, vous verrez. Et de votre côté, Mathieu, vous évoquerez une figure plus récente de l'histoire du sport, qui lui aussi avait de très beaux cheveux, mais qui n'était pas les siens.
Et oui, il fut l'icône sexy des cours de tennis durant les années 90, mais la chevelure d'André Agassi était fausse.
Ah bon? Ah non.
Ne faites pas semblant de le découvrir, Stéphane, à l'époque, chez le perruquier, André avait déclaré « Je veux le même modèle que Bern ».
Alors, avec nous, comme chaque jour, des chroniqueurs à la chevelure 100% authentique. Tout est d'origine, vous?
Oui, absolument.
Bon, eh bien, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde.
Je n'ai pas de perruque, je suppose que mes personnages en portaient, mais à une époque où tout, c'était le cas d'absolument tout le monde, donc ça n'était pas un critère discriminant. Je vais vous parler du ménage le plus original de l'histoire de France. Et c'est un couple composé d'un homme qui eût probablement préféré être une femme et d'une femme qui eût probablement préféré être un homme.
C'est pour ça qu'ils sont bien entendus.
Voilà, Stéphane, vous avez reconnu tout ceci.
Philippe d'Orléans et la princesse Palatine.
Absolument. Qui, selon la formule de Jean-Christian Petit-Fils, historien, était l'étonnant contraste d'une amazone et d'un hermaphrodite.
Oh, hermaphrodite,
comme vous y allez?
Oui.
La formule n'est pas de moi, hein, oui. Je l'ai citée entre guillemets, ça ne vous convient
pas. Il
faisait
du sexe, mais avec le chevalier de Lorraine. Il avait le même amant que sa femme.
Qui faisait du sexe avec qui? Nous
avec
le saurons tout à l'heure.
Avec elle, il utilisait son chapelet, bon, vous nous raconterez ça tout à l'heure, Stéphane, je compte sur vous.
En attendant.
J'espère que vous faites ça aussi, vous passez les chapelets sur les parties intimes avant et après.
Ben oui, vous avez déjà vu ce qu'il faisait.
C'est à Mathieu que vous parlez.
Oui, le rapport avec Dieu est plus complet.
Franchement, je me sens sali par votre regard. Ne me fixez pas, Stéphane. Présentez plutôt David.
Oui, David Cassel-Lopez qui revient toujours aux origines d'un objet, de ce qu'on utilise. De quoi allez-vous nous raconter?
Alors, de quoi allez-vous nous raconter? C'est bien formulé, ça, Stéphane. De quoi s'est dit donc que vous allez parler à nous aujourd'hui?
Parce que vous parlez en même temps, donc vous perturbez.
Du tout, je parle à la régie, je demande un café, j'ai le droit quand même.
C'est ça, parce que vous l'emmenez pas.
Oui, j'ai vu que David avait un café, je me suis dit, pourquoi moi ne suis-je pas servi en café? Bon, David, vous nous parlez.
Oui, je vous parle. Vous avez déjà parlé, vous vous souvenez sans doute, des origines du casque intégral de moto. Et bien aujourd'hui, je vais faire le casque à vélo. Vous dire, c'est la même chose.
Non, c'est pas C'est plus récent
et il y a plein de trucs très intéressants à en dire.
Vous êtes
alors je vois vos visages dubitatifs, me blesse, mais...
Au contraire, on sera tout oui tout à l'heure. Et puis, Olivier Pouls s'intéresse évidemment à la gastronomie, à une recette. De quel mets allez-vous nous entretenir?
Là aussi, on va être dans quelque chose qui est un petit peu passé de mode, mais qui revient.
Qu'est-ce que c'est?
C'est les aspics. Vous savez, les aspics.
Les serpents.
Alors,
l'aspic.
Vous verrez qu'il y a une petite relation avec les serpents, parce que c'est de là qu'ils tirent leur nom. C'est les œufs engelés, toutes ces petites préparations.
Les œufs engelés,
ça s'appelle des aspics.
Ça s'appelle des aspics.
Vous êtes sûr? Mais c'est en Belgique qu'on dit ça.
Pas du tout. Les aspics, c'est une préparation qui est dans la cuisine française depuis très longtemps.
Moi, j'adore les œufs engelés.
Ils font partie
de la famille des aspics.
Nos mères faisaient ça. Votre mère, vous faisait pas des aspics, des œufs engelés, de plein de trucs engelés?
Ça explique beaucoup de choses.
Bœuf engelé.
Vous croyez que ça vient de là?
Oui, les chapelets, tout ça. Enfin, Stéphane, si sur le plan capillaire, on peut toujours tricher, sur le plan culturel, en revanche, quand on commence à se dégarnir des neurones, ça se voit. Bern to be alive, notre quiz Vislard est un cruel révélateur chaque après-midi aux alentours de 5h-10. Mais tout de suite, partons à la rencontre de notre premier personnage à Moumoute. Stéphane nous raconte Hannibal.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
On le connaît surtout pour ses éléphants avec lesquels il a traversé les Alpes pour marcher sur Rome, mais le grand général carthaginois maîtrise aussi l'art de la guerre et celui plus surprenant du déguisement. Stéphane Bern nous raconte Hannibal, le roi de la moumoute.
Oui, alors Mathieu, il ne faut pas confondre éléphant et moumoute, mammouth, je veux dire. Plus sérieusement,
ah oui, ça c'est
notre
là, on est bien parti, là.
Héros du jour, le grand ennemi de Rome, Hannibal Barca, aurait porté une perruque d'après l'historien grec Polybe, l'un des plus célèbres de son époque, mais dans un contexte bien précis qu'il nous faut restituer. Hannibal Barca, son nom incarne toute la puissance et la gloire de Carthage, mais aussi sa terrible désillusion. Il aurait pu effacer Rome de la carte, mais c'est Carthage qui va être définitivement rasé. Quand Hannibal voit le jour en moins de 147 avant Jésus-Christ, Rome et Carthage, les deux principales puissances du monde antique, se livrent bataille lors de la première guerre punique. Du nord de l'Afrique à la Sicile, en passant par la Sardaigne et l'Espagne, Carthage étend sa puissance au fil des siècles, sous l'œil méfiant de Rome qui se voit disputer la domination de la Méditerranée. Lors de la première guerre, dont le théâtre est la Sicile, Hamilcar Barca est à la tête des armées carthaginoises. C'est à ce père qu'Hannibal doit son génie militaire. Bercé par les récits des campagnes d'Alexandre le Grand et les manuels sur l'art des batailles, Hannibal est surtout élevé dans la haine des Romains. Alors qu'il n'a que 9 ans, son père lui fait prêter un serment, celui de toujours combattre Rome. À la mort d'Hamilcar, puis de son successeur, Hasdrubal, Hannibal prend alors la tête des armées puniques. Il a 26 ans et ouvre les hostilités en faisant le siège de Sagonte, allié de Rome en Espagne. La deuxième guerre punique est lancée. Hannibal a une idée en tête, vaincre l'ennemi sur son propre terrain. Il entreprend alors de traverser l'Espagne et la Gaule pour marcher sur Rome. En traversant l'Èbre, il viole un traité de paix avec Rome et alors, fort d'un régiment de 50 000 fantassins, 9 000 cavaliers et 40 éléphants de guerre dressés à l'attaque, Hannibal est prêt à tout. Pour se rendre en Italie, il emprunte une route légendaire qui longe la Méditerranée et aurait été ouverte par Hercule, la voie héracléenne considérée comme la plus dangereuse de toutes. La traversée la plus périlleuse, c'est bien sûr celle des Alpes. Vous escaladez en ce moment les remparts de l'Italie, que dis-je, les murs même de Rome, dit Hannibal à ses troupes pour les motiver. Et de la motivation il en faut pour affronter le climat alpin, ces tempêtes de neige et rafales de vent qui causent de gros éboulements de pierres, sans compter les embuscades des Allobroges, ces peuples qui vivent dans les montagnes et défendent leur liberté. Descendre les Alpes est encore plus pénible que les gravir. Le versant italien est un véritable enfer blanc. Les passages sont si étroits, si pentus, qu'il est difficile de ne pas tomber dans le vide. Les chutes mortelles se multiplient. La traversée dure 15 jours. Et ce sont 15 000 hommes qui perdent la vie. Bizarrement, les éléphants tiennent le coup. Ils seront décimés dans les marais toscans. Les survivants ibères, gaulois, numides et africains sont épuisés. Eux qui n'avaient jamais vu la neige. Il faut bien comprendre que l'armée d'Hannibal est multiethnique, ce qui permet de profiter des qualités de chaque peuple. Mais pour ce qui est de la confiance, eh bien, elle ne règne pas toujours. Alors qu'il sécurise sa position dans le nord de l'Italie avec les victoires du Tessin et de la Trébie, Hannibal prend ses quartiers d'hiver à Bologne. Polybe raconte alors « Ce fut aussi dans ce même quartier d'hiver qu'il s'avisa d'un stratagème vraiment carthaginois. Il était environné de peuples légers et inconstants et la liaison qu'il avait contractée avec eux était encore toute récente. Il avait à craindre que, changeant à son égard de disposition, ils ne lui dressassent des pièges et n'attentassent à sa vie. » Pour la mettre en sûreté, il fit faire des perruques et des habits pour tous les âges. Il prenait tantôt l'un, tantôt l'autre, et se déguisait si souvent que non seulement ceux qui ne le voyaient qu'en passant, mais ses amis même, avaient peine à le reconnaître. Le fin tacticien est aussi habile dans l'art du déguisement. Après une nouvelle victoire au lac Trasimène, vient la plus célèbre, la bataille de Cannes, le 2 août 216 avant Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là, dans la ville du festival, mais à Cannes, cette petite contrée du sud de l'Italie considérée comme le garde-manger de la République romaine. Une place à prendre, donc.
Les consuls romains, Polémie et Varron sont confiants. Rome est en supériorité numérique, mais Hannibal élabore une stratégie ingénieuse. Au centre, il place les mercenaires espagnols et celtes, aux ailes, ses meilleurs soldats, les Africains, et au-delà des ailes, les cavaliers numides. Quand les mercenaires avancent, les Romains les enfoncent aussitôt, et c'est alors qu'Africains et numides prennent en étau les Romains. Hannibal a le vent en poupe. Ce n'est pas le cas des Romains qui se prennent de plein fouet le Sirocco, ce vent du Sahara qui les aveugle complètement. À la fin de la journée, 45 000 cadavres romains jonchent le champ de bataille. C'est l'une des plus meurtrières de l'histoire. Vite, il est temps de marcher sur Rome. Ses généraux le pressent, comme son chef de cavalerie Maharbal, avec sa célèbre formule « Tu sais vaincre, Hannibal, mais tu ne sais pas profiter de la victoire ». Effectivement, Hannibal n'en fait rien. Il ne veut pas prendre Rome. Et en plus, la poliorcétique, l'art du siège, n'est pas son fort. Ce qu'il veut, c'est rallier les cités italiennes à Carthage et surtout que Rome demande la paix. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à Rome, c'est le branle-bas de combat. Le nouveau dictateur Junius Pera reconstitue 4 légions et Rome arme pour la première fois ses esclaves. L'effectif de l'armée passe de 40 000 à 125 000 hommes, soit 2 fois plus que les armées d'Hannibal. La défaite de Cannes a attisé la haine des Romains, plus que jamais prêts à en découdre. Fier de cette victoire, Hannibal se dirige vers la Campanie et libère les peuples de la tutelle romaine. Ses troupes, fatiguées, ont bien mérité de se reposer. Rien de mieux qu'à Capoue, lieu de tous les excès, plaisirs et fantasmes. Hannibal séduit les habitants de la cité en affirmant qu'elle sera la capitale de l'Italie. Acclamés, les Puniques sont bichonnés. L'enfer alpin semble loin. Pendant qu'Hannibal fait du tourisme dans la ville, ses soldats profitent des délices de Capoue. Montagne de nourriture, vin qui coule à flot et bonne compagnie qui tiennent chaud. Pendant 13 ans, Hannibal et ses troupes s'enlisent en Italie dans une guerre d'usure contre Rome. Ses frères, Magon et Hasdrubal, sont vaincus en Espagne. Il n'obtient que quelques renforts de la part de Carthage car il n'a pas l'aval du Sénat. Plus que la guerre de Carthage, la deuxième guerre punique est la guerre d'Hannibal. Scipion, un général romain de 24 ans, fait son apparition. Il reconquiert la péninsule ibérique et porte la guerre sur le sol de Carthage. Les Numides se rallient à sa cause. Hannibal l'a compris, il est temps de rentrer. Après 34 ans d'absence, le voilà de retour en Afrique. Le 18 octobre 202 avant Jésus-Christ, c'est à Zama que se joue l'affrontement décisif. Hannibal et ses hommes ne font plus le poids. Pour parer aux charges des éléphants, Scipion crée des voies de passage entre ses troupes. Criblés de lances, les pachydermes paniquent quand les Romains frappent bruyamment sur leurs boucliers. Ils se retournent contre les Carthaginois, tout comme les mercenaires qui rallient eux aussi l'ennemi. Au final, 22 000 cadavres jonchent le sol, dont 20 000 du côté de Carthage. Victorieux, Scipion prend le surnom de Scipion, l'Africain. Et Hannibal, il prend ses jambes à son cou et retourne à Carthage. Déterminé à poursuivre la lutte contre Rome, il cherche à s'allier au roi d'Asie mineure. Mais quand le roi de Bithynie s'apprête à le livrer à Rome, Hannibal Barca, 64 ans, fait le choix du suicide et boit le poison.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Hannibal, nous sommes avec l'historien Luc Marie. Bonjour Luc.
Bonjour.
Bonjour Luc Marie.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes l'auteur de Hannibal, l'homme qui fit trembler Rome, paru aux éditions de l'Archipel. Des siècles nous séparent d'Hannibal et pourtant il ne cesse d'être ressuscité. À votre avis, ça tient à quoi? À ses exploits? À son envergure? Aux éléphants aussi?
À tout un tas de choses. L'épopée d'Hannibal, c'est curieux, mais ça démarre en trombe. Les deux premières années, donc nous sommes au 3e siècle avant Jésus-Christ, nous sommes en 218, il traverse les Alpes en l'espace de 15 jours, à raison de 1000 morts par jour, et il arrive dans la plaine du Pô, son armée a été réduite des 3/4. Mais ces éléphants ont survécu.
Tous ?
Tous. Tous ont traversé les Alpes.
Moi, j'arrive pas à comprendre si dans les passages étroits, comme Stéphane a raconté, que si des hommes tombent dans le vide, comment les éléphants, eux, ne tombent pas dans le vide ?
Ah, mais ils étaient très protégés. Ils étaient très protégés. Enfin, il n'y en avait que 37, hein. Ils étaient au-devant de la colonne, et il y a eu des éboulis, évidemment, les montagnes ont été très difficiles à traverser, non seulement des glissements de terrain, mais ça n'a jamais concerné les éléphants, des embuscades à répétition de la part des tribus montagnardes, des allobroges, et les tempêtes de neige, sans compter un froid glacial, un froid intense qui a décimé à peu près un tiers des troupes en l'espace de 15 jours.
Il aurait pu choisir une autre saison aussi. C'est un peu ridicule de traverser
c'est
les
ça.
Alpes en hiver.
Si vous aviez été là, ça aurait plus de gueule dans cette campagne. C'est la deuxième guerre punique avec
pourquoi
vous.
On lui avait pas dit qu'il neigeait dans les Alpes?
Ah bien, les Alpes, lui, n'avait aucune notion du climat dans les Alpes. C'était réputé impossible à traverser. Pour les Romains s'y attendaient pas parce qu'ils voulaient surprendre les Romains par le nord. Ils pouvaient pas débarquer sur les côtes italiennes. C'était sa flotte, la flotte punique n'arrivait pas à damer le pion à la flotte romaine. Et c'était le seul passage possible ou impossible. Et donc, il fallait surprendre l'ennemi. Alors, au départ, tout se passe bien pour Hannibal. Il va vaincre les troupes romaines malgré la faiblesse de ses troupes qui étaient affaiblies par la faim, etc. À 4 reprises, parce qu'il va, ce qui va se passer, c'est que les Gaulois vont se rallier à lui, les Gaulois cisalpins. Parce que ce qu'on oublie, c'est que l'Italie à l'époque n'était pas peuplée d'Italiens. Il y avait des Gaulois en Italie du Nord, c'est ce qu'on appelait la Gaule cisalpine. Et ces peuples se sont ralliés à Carthage, ou plutôt aux troupes d'Hannibal, après les premières victoires, ou plutôt les premières défaites romaines devant l'envahisseur.
Mais avec le recul de l'histoire, on citait tout à l'heure Alexandre le Grand, qui était quand même un grand stratège, est-ce que Hannibal n'était pas finalement un moins bon stratège qu'Alexandre le Grand, au sens où cette épopée dans les Alpes, elle est restée dans les mémoires par son caractère impossible, mais stratégiquement, est-ce que c'était vraiment si malin que ça, de passer par les Alpes? Est-ce qu'il n'aurait pas eu plus de chance, ou perdu moins de troupes en passant par un autre endroit?
Non, de ce côté-là, il a eu raison de passer par les Alpes.
Ça, c'était un bon choix.
Oui, c'était un bon choix, mais c'est la suite qui s'est révélée.
Il s'est embourbé, en fait.
Il s'est embourbé après la guerre de rupture, les 4 grandes victoires, notamment la bataille de Cannes, qui était une merveille de stratégie face aux troupes romaines qui ont perdu quand même 46 000 hommes en une seule journée, dont 80 sénateurs et un des 2 consuls. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé?
Il se repose sur ses lauriers.
Hannibal, oui, d'une certaine façon, il y a les délices de Capoue, mais Hannibal va s'embourber en Italie pendant 13 longues années.
Mais oui, c'est ça qui est fou.
Et pourquoi? D'abord, il a commis des erreurs, parce que c'est un grand tacticien sur le champ de bataille, mais pas un grand stratège à long terme. Ouais, de ce côté-là, il y a l'art de la ruse, l'art de l'anticipation, mais c'est pas un fin politicien. Il n'a rien fait.
C'est ce que disait son général, il n'a rien fait de sa victoire.
Voilà, il ne sait pas exploiter ses victoires. Alors, qu'est-ce qui explique l'échec final d'Hannibal? Déjà, Carthage ne l'a pas soutenu. Jamais Carthage n'a envoyé d'autres hommes, des renforts, vives, etc. Donc il est resté seul, coincé en Italie du Sud, en Calabre, dans le Brucium, etc. Deuxièmement, sa grande erreur, il n'a pas eu l'ambition de prendre Rome. Son ambition, c'était de contraindre Rome à négocier, faire admettre à Rome sa défaite finale, et ensuite la contraindre à négocier.
Et à lui rendre les territoires perdus par
son
père.
Cela étant, les peuples italiotes ne se sont pas tous ralliés, notamment les Étrusques à Hannibal. Il n'y a pas eu le ralliement massif prévu. Et deuxièmement, Rome a refusé de négocier. La colère l'emporte, dirais-je, sur l'abattement. Et Rome a même réarmer sa population à raison de 8 légions et même armer les esclaves. Première fois qu'on arme les esclaves dans l'histoire de Rome. 8000 esclaves exactement, c'est pas beaucoup quand même. Et Rome a refusé aussi de racheter les captifs. Parce que les 10 000 captifs romains qui ont été faits prisonniers donc lors de la bataille de Cannes. Parce qu'avec ça, Rome se disait, mais il peut recruter d'autres troupes. Parce que les troupes d'Hannibal, c'était des mercenaires. Alors que les troupes romaines, c'était des légionnaires, des citoyens de Rome. Et en face, nous avions des mercenaires provenant d'Afrique du Nord, des Libyens, des Numides, les fameux cavaliers Numides, des Gaulois, des Ibères, qui maniaient admirablement l'épée, et les Numides, qui étaient les meilleurs cavaliers du monde. Mais ils avaient du mal à supporter, évidemment, tout ce climat, et les fameux éléphants, vous me direz.
Il y a les éléphants, et puis les perruques, dont on va parler dans un instant. Les célèbres perruques de l'histoire, c'est le thème de notre émission, les porteurs de perruques, et d'Hannibal en particulier. On va y revenir avec notre invité, Luc Marie, sur Europe 1, tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Il portait une perruque. C'est notre thème cet après-midi dans Historiquement Vôtre, à la rencontre de ces personnages de l'histoire qui portaient la moumoute pour diverses raisons. On parle d'Annibal Barca, le célèbre Annibal et sa traversée des Alpes, avec notre invité, l'historien Luc Marie. Alors, Luc, l'historien grec Polybe, Stéphane Lady, qui est né lui-même en moins de 100 avant Jésus-Christ, l'historien Polybe, hein, pas Stéphane Bern, affirme qu'Annibal portait des perruques. Alors, c'était quoi? C'était un moyen d'éviter les menaces de mort? On sait qu'il en a porté longtemps, on s'est sourcé tout ça ou pas?
Alors, sourcé, je dirais oui et non, il n'y a que Polybe qui en parle. Il n'y a que deux historiens d'ailleurs qui parlent des guerres puniques, Tite Live, qui est un contemporain de César, et Polybe, qui a raconté les faits 70 ans après les faits. Et c'est notre seule source. Hein. Imaginez un seul historien qui parle de la Première Guerre mondiale dans le camp des vainqueurs, ce serait un peu limite. Et cette histoire de perruque, c'est survenu, oui, je ne sais pas si c'est vrai vraiment, mais il changeait de perruque et de vêtements à peu près tous les jours pendant 4 mois. C'est suite aux 2 grandes victoires qu'il a remportées sur les Romains après la bataille du Tessin, la bataille de Trébie. C'était en décembre 218 avant Jésus-Christ. Et là, il y avait eu des menaces de mort qui avaient été proférées contre lui de la part des Gaulois, qui avaient estimé que pendant la bataille de la Trébie, on avait plus mis les Gaulois en avant que les Carthaginois. Il y avait beaucoup plus de victimes du côté gaulois que carthaginois. Donc des menaces de mort pesaient sur Annibal. Alors, bon, il aurait gardé cette perruque au début de l'année 219, à peu près l'espace d'une saison, quoi.
Mais j'ai raconté que même alors, ses amis ne pouvaient pas le reconnaître. C'est exagéré, parce que dans le contexte, ça peut aussi être dangereux, parce que franchement, si on ne reconnaît pas que c'est le général Annibal...
Il serait divisé à ne pas reconnaître. Hein. D'abord, c'est après la mort de tous ces éléphants dans les marais toscans.
Ah oui?
Oui, parce que tous ces éléphants n'ont pas survécu à l'hivernage après le...
Ils ont traversé les Alpes, mais ils sont morts dans les marais toscans.
Voilà.
Tous ou il en restait...
Un seul.
Un seul, celui d'Annibal.
Voilà, celui d'Annibal. Enfin, il s'est accaparé le dernier. Mais c'est ça qui est surprenant. Alors, il y en a une dizaine qui sont morts lors de la bataille de la Trébie, et qui effrayaient les Romains. Mais c'est pas la première fois que les Romains voyaient des éléphants. Alors là, je tiens à corriger peut-être une légende de l'histoire, mais Annibal n'est pas le premier homme. Les Carthaginois ne sont pas les premiers à avoir utilisé les éléphants pour combattre les armées adverses. Pyrrhus des Pires, en 280 avant Jésus-Christ, donc 2 générations avant, avait utilisé déjà des éléphants pour combattre les Romains. Ainsi que Alexandre le Grand aussi avait eu affaire au roi Pouros, un roi indien, un géant d'1m40, qui aussi utilisait les éléphants contre les troupes macédoniennes. Donc c'est pas la première fois dans l'histoire, en effet, que les éléphants sont utilisés. Et pour traverser les Alpes, oui.
J'aimerais, Luc-Marie, qu'on revienne sur cette bataille de Cannes, qui n'est donc pas la ville du festival, on l'aura bien compris, mais une ville en Italie. Stéphane a raconté dans le récit, le niveau de stratégie était dément, en témoigne la disposition de ses troupes. C'était vraiment un as de l'anticipation, Annibal, dans cette bataille, c'est son chef-d'œuvre.
Oui, alors, la bataille de Cannes, donc c'est le 2 août 216 avant Jésus-Christ. Ça fait 2 ans que les Carthaginois foulent le sol italien. Et Cannes, pour situer géographiquement, c'est au nord de Bari, c'est dans les Pouilles. Ça a environ 350 km au sud-est de Rome. Et là, les Romains ont mobilisé 8 légions.
Ça représentait quoi, une légion?
À environ 5000 hommes.
5000 hommes, une légion.
Oui. Alors, le Rome avait mobilisé 8 légions et Annibal, face à la supériorité numérique romaine, avait tendu un piège aux Romains en disposant en arc de cercle ses troupes, en renforçant les ailes et en affaiblissant le centre. C'est-à-dire que les Romains ont attaqué d'abord le centre, ils se sont enfoncés comme dans du beurre dans le centre, pensant que la victoire était faite. Et ensuite, les deux ailes se sont repliées vers le milieu, vers le centre, et ont écrasé les forces romaines. Voilà, il avait placé les Gaulois à gauche, et les Numides à droite, et les Ibères au milieu. Bon, c'est cela, donc il avait renforcé les ailes et affaibli le centre, chose qui n'avait jamais été faite auparavant. Donc c'était pour induire en erreur... les troupes romaines qui ont quand même perdu plusieurs dizaines de milliers d'hommes, sans compter les sénateurs, vous ai-je dit, et un consul sur deux, parce que les Romains, en plus, étaient commandés par 2 consuls. Alors ça aussi, le double commandement a nuit quelque peu aux Romains, parce qu'il y en a Paul-Émile et Varron. Par exemple, le lundi, c'est Paul-Émile qui commandait les troupes, le mardi, c'était Varron.
C'est n'importe quoi, ça.
Moi, je l'aurais dit.
Hein. Bon.
Alors, cela dit, les Romains ont réagi.
Oui.
Ils ont... armé des esclaves, vous l'avez dit, puis ils ont envoyé Scipion.
Ah.
Et Scipion, quand même, Scipion l'Africain, alors on le connaît un petit peu, mais franchement, beaucoup moins qu'Hannibal. Comment vous expliquez ça? C'est que Hannibal est vaincu par Scipion l'Africain et lui...
Ce sont les ironies de l'histoire.
Ah oui.
Alors je dirais, alors Scipion, c'est vrai, va réussir. D'abord, il va reconquérir l'Espagne, parce que pendant que les Carthaginois
sont
en Italie, les Romains, eux, reconquièrent une à une toutes les villes d'Espagne. Et en 202 avant Jésus-Christ, lors de la fameuse bataille de Zama, qui est aussi une grande bataille qui est entrée dans l'histoire, là c'est l'inverse qui se produit, les Carthaginois sont décimés, les Romains sont victorieux, parce que Scipion a su calquer prévoir la stratégie d'Hannibal. Et d'ailleurs, les éléphants, ce jour-là, se sont retournés contre leurs troupes.
Ah oui,
les Romains ont réussi à effrayer les éléphants carthaginois qui sont devenus finalement principale arme offensive. Alors, Scipion a battu Hannibal. Hannibal, ensuite, est un paria dans sa ville. Et ensuite, il devra fuir, d'ailleurs, sa ville, parce que Hannibal, on déteste les généraux vaincus. Et on se méfie des généraux vainqueurs. Alors, c'est pour vous dire. Les généraux vainqueurs, Hannibal était crucifié. Lui, il a échappé à la crucifixion. Et les généraux vainqueurs, eux, étaient condamnés à l'exil. Bon, il fallait surtout pas être général, finalement.
Voilà.
Et en plus, ils étaient élus par le peuple, les généraux. Hein. Alors, comment expliquer que Scipion... Ben, je dirais qu'on ne peut pas y avoir deux grands hommes sur le podium de l'histoire. On a choisi Hannibal. Enfin, pourquoi? Grâce à la traversée des Alpes. Cet exploit unique. Et puis, il a quand même remporté des batailles uniques grâce à son art de la ruse qu'on appelait la métisse. Scipion n'a fait que copier Hannibal.
En mieux, avec d'autres moyens.
Voilà. Donc Scipion,
c'est moins de mérite.
C'est le meilleur second.
Voilà. Bah, en tout cas, ça donne envie de s'intéresser aussi à Scipion.
Mais Stéphane, je vous promets qu'on parlera de Scipion.
Ah oui, ça me ferait plaisir.
En tout cas, je me penche en ce moment sur ça.
Ah bien, vous reviendrez.
Vous reviendrez. Merci Luc-Marie pour cet éclairage que les auditeurs peuvent approfondir avec Hannibal, l'homme qui fit trembler Rome, paru chez l'Archipel. Dans un tout autre registre, je mentionne aussi votre nouveau livre, La France en colère, qui vient de paraître chez Buchet-Chastel. Merci beaucoup.
Mais merci,
merci à vous.
Merci Luc-Marie.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires que la presse people de l'époque n'avait même pas osé aborder. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, alors là, on rentre vraiment, on va au Palais Royal. On rentre dans la chambre de Philippe d'Orléans et de la princesse Palatine.
À propos de laquelle, d'ailleurs, on a de nombreux témoignages, en tout cas de cet étrange couple. Hein. Le philosophe Locke, de passage à Versailles, a raconté qu'il avait croisé la Palatine, coiffée d'une perruque d'homme et habillée en homme jusqu'à la ceinture. Entre deux orgies de choucroute et soupe à la bière, Madame allait à la chasse pendant que Monsieur se rendait à la mascarade, comprenez, au bal masqué. Dans ce couple glorieux, on ne saurait dire précisément lequel fut monsieur et laquelle fut madame, fait observer l'un de leurs biographes. Mais la question intéressante, c'est d'où vient que la Palatine, alias Elisabeth Charlotte du Palatinat, donc une princesse allemande, protestante, née à Heidelberg en 1652, d'où vient qu'elle ait été un tel garçon manqué? Est-ce que ça serait lié à son histoire familiale? Oui, parce que voyez-vous, son père a été un amant insatiable. Alors, il estimait que sa femme n'était pas assez enthousiaste au lit, et du coup, il décide d'en divorcer unilatéralement, et il va épouser morganatiquement Louise von Degenfeld, dame d'honneur de sa cour. Et alors, il lui fait 13 enfants. Quelle santé, oui. N'est-ce pas? Il était donc déjà marié, largement pourvu d'enfants. Il en fait 13 autres à une seconde femme. Donc, il est ouvertement bigame aux yeux de l'Église. Et il va vivre 3 ans, à partir de 1654, avec ses deux femmes dans son château d'Heidelberg. Bah oui, on est bien comme ça, voilà. Alors, il aurait voulu faire reconnaître sa bigamie par l'Église protestante à laquelle il appartient, mais alors on s'en doute, il lui a été répondu qu'il n'en était quand même pas vraiment question. Donc, il a dû attendre que son divorce soit enfin rendu officiel, et à ce moment-là, sa première épouse, part vivre à Hanoï. Hanoï, pas Hanoï.
Hanoï, parce que Hanoï, c'est exotique à l'époque.
À Hanoï, avec sa fille Charlotte. Et quand Charlotte revient au château de son papa, elle a 10 ans à ce moment-là, elle se retrouve face à une flopée de frères et sœurs dont on s'est bien gardé de lui communiquer l'existence. Ça a dû quand même lui faire un sacré choc, vous vous rendez compte? Vous partez, vous vous absentez, vous voyez plus votre père pendant 3 ans, vous revenez, vous avez 13 frères et sœurs qui sortent d'on ne sait où. Et elle va en garder une sainte aversion pour la dissimulation, l'hypocrisie et les faux semblants. On peut aussi supposer que sa mère l'avait un peu chapitré sur la question de l'appétit sexuel. Hein. Elle l'a probablement encouragé à se méfier des hommes. Peut-être en cela a-t-elle influencé ce côté garçon manqué de sa fille. En tout cas, une chose est sûre, Charlotte aurait vraiment préféré être un garçon. Elle ne s'apprête jamais, elle n'utilise pas de fard, de maquillage, pas de falbala. Elle aime que la vie au grand air, les chiens, les chevaux, la chasse, les armes. Elle chasse des journées entières. En 1709, elle écrira avoir vu tuer plus de 1000 cerfs et être tombée de cheval 26 fois. C'est marrant, on les compte. Il y a même une scène inénarrable qu'elle a racontée. En pleine chasse, elle s'éloigne derrière une haie pour satisfaire un besoin urgent. Donc elle est là, les fesses à l'air. Toute la chasse royale est en train de courser un cerf et lui passe à côté d'elle alors qu'elle a les fesses à l'air. Le soir même, elle le consigne dans une de ses lettres. Ça ne la dérange pas du tout. C'est une femme sans façon et d'une certaine manière, elle n'a pas ces pudeurs-là. Quand elle apprend à l'âge de 19 ans qu'elle va devenir la belle-sœur du roi Louis XIV, elle était furieuse. Elle ne voulait pas se marier et elle avait refusé déjà plusieurs soupirants. Donc on imagine le choc quand on lui présente son futur mari, monsieur frère du roi, qui n'a accepté de l'épouser qu'à la condition expresse qu'on ferait revenir son amoureux, son amant du moment dont nous parlait Stéphane tout à l'heure.
Le chevalier de Lorraine.
Exactement. Donc il accepte de l'épouser strictement pour revoir son Jules en termes contemporains, si vous voulez. Alors, Charlotte va quand même adopter les deux filles que son mari a eues d'un premier mariage avec Henriette et elle lui donnera tout de même 3 enfants. Oui. Mais enfin, oui, c'est son devoir, hein, bien sûr. Hein. Mais leur devoir dynastique rempli, les époux se mettront d'accord pour s'épargner réciproquement la corvée du devoir conjugal. Et alors, c'est là que la Palatine a raconté, c'est absolument truculent, une nuit, elle entendait que son mari trifouillait quelque chose sous les couvertures. Alors, une nuit, elle le guette, et bien, elle lui prend la main sous les draps, et elle prend son mari, donc en flagrant délit, il est là avec un chapelet auquel est accroché plein de médailles pieuses, et il passait ça sous les couvertures. Alors, Philippe lui dit, bon, vous qui avez des huguenotes, vous ne savez pas le pouvoir des images de la Vierge. Elles garantissent de tout mal les parties qu'on en frotte. Alors, la Palatine, avec le rude bon sens hein, du palatinat et du luthérianisme, lui dit « Je vous demande pardon, mais vous ne me persuaderez pas que c'est honorer la Vierge que de promener son image sur les parties destinées à ôter la virginité. » Monsieur, raconte la Palatine, ne put s'empêcher de rire et dit « Je vous en prie, ne le dites à personne. » En tout cas, ces deux-là, finalement, s'entendaient pas mal. Et entre eux, même dans la parentalité, c'est le terme qu'on utiliserait aujourd'hui, les rôles sont complètement inversés. L'autorité, la punition, c'est la Palatine. Et c'est Philippe, c'est le père qui éponge l'âme des enfants.
Bah lui, il cède à tout.
Il donne des bonbons.
Il cède à son frère. Et il faut l'imaginer, il était parfumé comme une cocotte. Il avait des rubans partout. De toutes les couleurs.
Eh oui.
Il était l'objet de moquerie ou au contraire c'était accepté?
J'imagine. Comme il était le frère du roi.
C'était pas n'importe
monsieur,
qui, bien
il
sûr.
Il était monsieur frère du roi. Très bon guerrier par ailleurs.
Ah, tout à fait.
Mais c'est vrai qu'il était plus fardé que sa femme. Son frère l'a encouragé à s'habiller être comme une femme, en quelque sorte.
Quand il s'est illustré sur les champs de bataille, son frère l'a privé de commandant. Je ferai un jour quelque chose là-dessus. Alors là, en tout cas, un jour, on demande au futur régent s'il aimait les cérémonies et les parures. Il répondit, je ne les hais pas tant que madame, mais je ne les aime pas tout à fait autant que monsieur. Vous imaginez, voilà des enfants qui ne devaient pas trop savoir à quel saint se vouer à tous les sens du terme. Mais par une étrange ironie du destin, c'est de ce couple étrange que descendent la plupart des souverains contemporains européens. Eh oui.
Après Philippe et la Palatine, un autre couple curieux de l'histoire, Clémentine Portier-Kaltenbach, Stéphane Bern.
Heureusement qu'on n'a pas fait d'enfant.
Dans l'épreuve du quiz, heureusement. Mais j'ai envie de dire, pour l'instant, croisons les doigts.
Ah, mais oui, mais écoutez, ouais.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
C'est le moment de notre émission où les masques tombent. Ce moment où l'auditeur prend brusquement conscience de ce qu'il est convenu d'appeler l'imposture. Stéphane Bern,
oh,
un type.
Non,
un type.
Oui, non, là, ce type, ça commence à faire beaucoup.
Non,
oui. Type, non, non, non. Non,
de...
non, allez, non, on va faire la
le
grève.
Disque est rayé, le disque est rayé.
Un type qu'on croyait galère en histoire.
Et
qui pourtant, devant certaines questions du quiz, déclare
je comprends rien de quoi vous dites.
Merci, lui. Pas toujours tout comprendre à difficile question. Jouons à Bern to be alive. Ce quiz où Stéphane triomphe souvent, bien sûr, je
mais
le
non,
taquine.
Mais John, oui, mais vous taquinez, mais il en restera quelque chose.
Oui, avez, mais c'est ce que je me dis.
Après, vous faites beaucoup de mal.
Oui,
beaucoup
de mal à ma réputation et à Lina, surtout.
Vous imaginez, après, dans les futurs entretiens d'embauche, on vous dit, Stéphane, on entendait le quiz. Bon, question numéro 1 pour vous, Stéphane. Montréal, 24 juillet 67. Charles de Gaulle prononce cette phrase mythique « Vive le Québec libre ». Ce qui est étonnant au Québec, c'est qu'il y a tellement de lacs qu'ils ont eu du mal à trouver des idées de noms sympas. Parmi ces quatre noms, trouvez le faux. Le lac Culotte, le lac Crétin, le lac Tire-Bouchon, le lac J'en peux plus.
Pardon, il y en a un faux.
Oui, parmi ces quatre noms de lacs, trouvez le faux. Le lac Culotte, le lac Crétin, le lac Tire-Bouchon, le lac J'en peux plus.
Oh, le J'en peux plus...
Moi, je dirais le lac Crétin.
D'après vous,
allez,
Stéphane.
Je vais dire lac Crétin.
Lac Crétin ?
Oui.
Moi, je ne sais pas prendre l'accent québécois.
Vous avez perdu.
Vous avez perdu, Stéphane. Une fois de plus, une question d'histoire à laquelle vous n'avez pas su répondre. Une question vraiment.
Je vous mets au défi.
Histoire géographique, quoi. Bon, le lac Tire-Bouchon n'existe pas, les amis.
Ah,
il
oui,
y a
voilà,
le lac Saxophone, par exemple, qui existe. Ouais. Il a la forme d'un saxophone. Le lac Culotte, le lac Crétin et le lac J'en peux plus. Existe.
Ah oui. C'est le lac Tire-Bouchon.
C'est Tire-Bouchon qui n'existe pas.
Le lac Tire-Bouchon, il faudrait
l'inventer. Ce qui est bizarre, parce qu'on aurait pu imaginer, vous savez, comme, un étang qu'on peut comme ça.
Tout à fait, oui.
Purer en enlevant la bombe, comme un lavabo.
Vous avez. Je préfère tomber sur ce genre de questions et échouer que gagner sur des questions trop faciles.
La prochaine n'est pas facile. Le régime nazi, Clémentine, a dès le début inspiré des films mais aussi des dessins animés. Ainsi, Donald a eu un Oscar du meilleur court-métrage en 1943 produit par Walt Disney où le célèbre canard dénonce le fascisme. Il y a eu des séries aussi en France. Il y a eu en 1999 un épisode spécial de Louis la Brocante qui se passait durant la collaboration. Vrai ou faux ?
Il y a eu un épisode, ça c'est ma question d'histoire. Il y aurait eu en 99 un épisode de Louis la Brocante qui se passait pendant l'occupation.
C'est ma question.
Pourquoi pas qu'une partie de l'épisode se soit déroulée dans le passé où on faisait incarner les personnages par le père de Victor Lanoux qui aurait été brocanteur à Paris en 40.
Vous pourrez être scénariste pour France Télévisions. Hein. C'est votre réponse ?
Oui, je veux dire oui.
Vous avez...
Vous avez perdu. Il n'y a pas Louis fait de la résistance, un épisode de Louis de la Brocante qu'on aurait aimé voir. En revanche, il y a eu un Mimi Mati fait de la résistance, ou plutôt un Joséphine Ange Gardien. C'était en 2010. Si vous êtes historien ou si vous voulez vous suicider, n'hésitez pas à le regarder en replay. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Sous l'ancien régime, quand on disait « jeu de main, jeu de vilain », ça voulait dire « demain » en un mot. En gros, ça signifiait qu'il ne fallait pas remettre à « demain » un jeu, sinon on était un lâche. Vrai ou faux ?
Le vilain est un paysan, c'est pas du tout ce qu'on
imagine. Pas du tout de valeur, Stéphane.
Non, le vilain joue à la paume avec sa main parce qu'il n'a pas d'autre chose.
Jeu de main, jeu de vilain. Non, non, c'est...
C'est important que vous répondez faux.
C'est faux.
Vous avez...
Et c'est une bonne réponse, un peu collégiale, mais bonne quand même, Stéphane, bravo. Non, le vilain
teamwork.
Était un paysan. Il ne pouvait se servir que de ses deux mains, que de ses mains pour les duels, alors que les nobles avaient le droit aux armes blanches ou aux armes à feu. 1-0 pour Stéphane. C'est une question tout à fait décisive qui se pose. Si je vous dis 1515, vous me dites...
L'avènement
je
du,
ne sais pas.
Du roi François Ier.
Bon, marine. Mais c'est aussi cette année-là que le navigateur espagnol Bermudez a découvert l'archipel des Bermudes, aujourd'hui territoire britannique d'outre-mer et, accessoirement, petit paradis fiscal. C'est aussi, oui Stéphane, je vous le dis, c'est aussi cet archipel qui a donné son nom aux Bermudas. Vrai ou faux ?
Ah, les Bermudes, que les Bermudes aient donné son nom aux Bermudas, je le crois très volontiers. En revanche, j'ignorais, vous avez déjà entendu parler de ce marin qui s'appelait Bermudez ? Non ?
Non, je connaissais les Bermudes, il y a un triangle.
Ouais, le triangle des Bermudes et les Bermudes ont donné leur nom aux Bermudas, puisque bien sûr, oui.
Chacun le sait.
Chacun le sait.
Vous avez...
Ça doit être faux.
Gagné.
Mais non, pourquoi me prêter
ah,
des...
Non, mais on ne sait plus, on sait plus quoi penser.
Je joue avec Vonnet. Début du 19e, les militaires de la Navy britannique stationnés sur l'archipel souffrent de la chaleur. Ils obtiennent le droit de raccourcir leurs pantalons au-dessus du genou, mais ils doivent garder leurs chaussettes. Le Bermuda était né. Question numéro 5, elle va vous départager puisque
ça,
vous êtes à égalité.
Je sens votre joie suave.
C'est en 1922 que la première production cinématographique a été projetée avec des lunettes 3D. Le film s'appelait Power of Love. Mais voici trois autres affirmations sur le cinéma en trois dimensions. Seule une de ces propositions est vraie. Les nazis aussi ont fait un film de propagande en 3D. Il y a eu un film sur les trois mousquetaires fait en 3D avec Mila Jovovich, mais l'actrice a demandé à ne pas apparaître en 3D. Ou le premier film belge en 3D n'a pas pu être joué en Belgique, faute d'équipement.
Moi, j'ai la 1.
Alors, c'est intéressant quand même de voir un peu ce qui se passe dans vos têtes. Stéphane, pour vous, le premier film belge en 3D n'a pas pu être joué en Belgique, faute d'équipement. C'est-à-dire qu'ils avaient tourné un film
marrant,
en 3D, mais ils n'avaient pas pensé à avoir un projecteur 3D.
Ah, c'est sympa comme idée.
C'est sympa pour les Belges. Ça en dit long sur votre vision de nos chers voisins. Non, c'est évidemment une victoire de Clémentine Portier-Kaltenbach. Les nazis ont fait un film de propagande en 3D. En 2011, le cinéaste australien Philippe Mora a trouvé deux films réalisés par le ministère de la propagande de Goebbels. Ils étaient dans les archives fédérales de Berlin, réalisés en 1936. Ils avaient, je cite, « la qualité technique de films hollywoodiens des années 50 ». Sacré nazi. Victoire en tout cas sur le fil de Clémentine Portier-Kaltenbach. Sur le film et sur le fil, vous êtes bien battu Stéphane.
Oui,
c'était cette
crois.
Question sur les Belges qui vous a perdu.
Oui.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre, chaque après-midi, trois personnages ayant vécu à des époques différentes, mais ayant un point commun. Aujourd'hui, j'ai eu l'idée du thème en observant Mathieu Noël du dessus, alors qu'il était dans l'escalier. J'ai en effet réalisé qu'un trou du type moine franciscain se dessinait de plus en plus nettement sa chevelure jadis si dense et qui m'avait impressionné à la télévision. J'ai pensé, tiens, si on faisait une émission spéciale sur les personnages de l'histoire qui portaient la perruque.
Oh, la belle idée, Stéphane. Vous savez ce qu'il vous dit, le moine franciscain ?
Ne le prenez pas en mauvaise part, Mathieu. Avoir une moumoute, c'est plus un tabou. Hein.
Oui.
Regardez. Le gang des postiches.
C'est vrai.
Bah, je vous raconte la folle épopée de ces braqueurs de banque. Et vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait, bon, à 99% vrai, d'un tennisman qui lui aussi portait une moumoute en plein match.
Oui, il a eu du bol, qui n'a jamais eu de coup de vent à Roland-Garros. Je vous raconte le destin capillaire d'André Agassi, dont la chevelure légendaire dans les années 90 n'était rien d'autre qu'un vulgaire postiche. Qui est là avec nous? Regardez, c'est pas
David Castel-Lopez, qui remonte aux origines d'un objet.
David, c'est le meilleur chroniqueur de l'équipe. Je viens de les lire. Meilleur chroniqueur de l'équipe.
Oui, parce qu'il vous a apporté un café.
Absolument pas, ça tient à la qualité de son travail. Et aussi, David fait du très bon café. David est le pire chroniqueur de cette émission. On comprend jamais ses sujets. Je sais pas, il m'a salopé le café. Qu'est-ce que vous avez mis dans le café?
C'est du viandox. Évidemment.
Ça, c'est du viandox.
Mais oui.
Mais pur ou mélangé du café?
Non, c'est du viandox pur. C'est comme ça qu'on le boit
dans
avec Olivier Pouls. Et maintenant, rebuvez un petit peu et pensez, c'est du viandox. Hein?
C'est comme un bouillon. Ah oui, c'est un bouillon un petit peu. C'est un bouillon. Ben, je vais le boire. Oui,
c'est pas si mal.
Oui, il faut le savoir. Mais quand vous pensez que c'est du café, c'est vraiment une agression, une sorte de viol buccal assez douloureux. Et je ne l'oublierai pas.
Beaucoup de viol, oui.
Alors, on parle du casque de vélo, David.
Oui, tout à fait, on parle du casque de vélo.
Oui, c'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de dangers sur la route.
Oui,
et
tout
que
à fait.
Les cyclistes sont obligés maintenant de porter un casque.
Oui. Mais voilà, s'ils pouvaient commencer par respecter les feux, les cyclistes, ça serait peut-être bien aussi avec le casque.
Petite guerre entre les automobilistes et les cyclistes.
Oui, petite guerre dont nous parlerons. Olivier Pouls, c'est avec nous, Stéphane.
Oui, je vous parle d'un produit, d'une recette que les moins de 20 ans ne connaissent pas forcément, mais qui revient pourtant, les aspics. Les aspics, c'est ces petites préparations en gelée. Alors, il y a l'œuf en gelée, évidemment, mais on trouve des aspics de poisson, on trouve des aspics de volaille, plein de.
Mais est-ce qu'on pourra demander à Stéphane, qui connaît l'origine des expressions et des mots, d'où vient le mot aspic
je vous le dirai, à l'œuf en gelée? Je vous le dirai.
Ça paraît. Ne vous énervez pas, d'autant que Stéphane a du boulot, il doit nous expliquer l'expression en deux temps, trois mouvements aujourd'hui.
Oui. Bah, vous savez d'où ça vient, deux temps, trois mouvements?
La musique.
C'est militaire, mon gars, c'est militaire.
Ah bah oui,
il va falloir retourner à l'armée.
C'est militaire,
je suis
mon gars.
Jamais allé.
Planqué. On découvre qu'Olivier est un planqué. Bah.
Alors que nous...
Mais oui, que nous, Stéphane, on a servi.
Parce que vous êtes trop jeune, Mathieu, mais vous, vous aviez l'âge de faire le service militaire.
J'ai été exempté.
Bien sûr.
Des problèmes de...
Non. Pas un coup de fil.
Des vrais problèmes.
Des vrais problèmes.
P5, c'est ça.
Oui.
Vous nous raconterez un jour comment vous avez simulé la folie au service militaire.
Ils ont vu.
Moi, je voulais faire...
Mais ils m'ont dit non, là, commencez à leur parler de Charles et Diana, ça va mal se passer.
Oui. Tout de suite, les amis, partons à la rencontre d'amateurs de perruques fort sympathiques. Stéphane Bern nous raconte le gang des postiches.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Il portait une perruque, mais aussi de fausses moustaches, des barbes, lunettes et déguisements tout droit sortis d'une boutique de farce et attrape. Des rigolos? Non. Une bande de malfrats qui a perpétré au début des années 80 une longue série de braquages dans les beaux quartiers parisiens. Stéphane Bern nous raconte le célèbre gang des postiches.
Sur place, on a retrouvé également des postiches. Il pourrait donc s'agir de ce fameux gang, célèbre pour ses hold-up parfaitement organisés, ces hold-up durant lesquels aucun coup de feu jusqu'à présent n'a été tiré. Benoît Duquesne et Olivier Albert, Europe 1.
Europe 1 en parle, tous les médias en parlent. Les JT s'amusent même en mars 1984. Bonjour les postiches, au revoir votre argent. Il faut bien avouer que 5 braquages en une semaine, les gangsters font fort. Et ça fait 3 ans que ça dure. Depuis le premier braquage en septembre 1981, les membres de ce gang, pas comme les autres, ont déjà vidé 3500 coffres. Leur butin s'élève à 187 millions de francs. Ces bandits culottés dévalisent les banques des beaux quartiers parisiens en plein jour. Et même plusieurs fois par jour, ils enchaînent les casses et ne se reposent qu'à l'heure de l'apéro. Des courses-poursuites avec la police? Jamais. Elle arrive bien trop tard. Je les ai vus, raconte un témoin. Il y a un rabbin, un diplomate russe en chapka et le Denver et un commandant de bord d'Air France. Les portraits Rambo sont rigolos. À l'image des braqueurs qui portent fausses barbes, moustaches, lunettes et perruques achetées dans des magasins de farces et attrapes. Mais qui se cache derrière ces déguisements? La presse les surnomme le gang des postiches. Entre eux, ils s'appellent la bande à Belleville. Ces anciens gamins sans le sou de l'Est parisien sont tombés dans la marmite tout petit. Il y a Bruno Berliner, qu'on surnomme Beau Sourire, Miska, le Polonais, Belaïch, le Tunisien, Jay, l'apprenti plombier, et Robert Marguerite, surnommé Bichon. La bande de copains sèche l'école et commet des petits larcins à Belleville et Montreuil en proche banlieue. Ils détournent des camions de livraison d'électroménager, inventent une canne à pêche pour attraper les bijoux dans les vitrines, et le butin est toujours partagé à égalité. La délinquance prend des allures de grand banditisme lorsque la gauche arrive au pouvoir avec l'élection de François Mitterrand en 1981. Les postiches sont convaincus que les riches entreposent leur argent non déclaré au fisc dans les banques de Neuilly, du 16e ou du 8e arrondissement de Paris. Lorsqu'ils débarquent pour braquer, ils ne crient pas « c'est un hold-up, mais contrôle fiscal ». Entre 45 minutes et 2 heures, c'est le temps qu'il leur faut pour opérer dans une banque. Quand un client arrive, un membre du gang des postiches, déguisé en bourgeois, perruque parfaitement laquée, l'accueille avec courtoisie et le conduit tranquillement au sous-sol, où se trouvent déjà les autres otages. Dans une ambiance de grands travaux, les otages assistent à l'ouverture des coffres. Armés d'un burin et d'un marteau, un postiche ouvre les coffres comme d'autres ouvriraient une boîte de conserve. 8 secondes suffisent. Un autre jette tout le contenu par terre, pendant qu'un troisième enfourne l'argent, les lingots d'or et les bijoux dans des sacs à patates ou des surplus kaki de l'armée américaine. Le travail terminé, les postiches prennent la fuite. Le gang vole les riches, en tout cas leur argent et leurs biens précieux, ce qui les rend plutôt sympathiques aux yeux de la presse et de l'opinion publique. Tels des Robin des Bois, les postiches donnent même des liasses de billets aux témoins. Le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, ne s'inquiète pas outre mesure car les postiches n'ont pas de sang sur les mains. Il n'y a jamais de mort. Les agents de l'anti-gang et de la BRB, Brigade de répression du banditisme, sont quant à eux dans le flou le plus total. Il faut dire que la méthode des postiches est au point. Ils emportent avec eux les bandes de vidéosurveillance et se branchent sur les fréquences de la police pour avoir un coup d'avance. Pour semer le doute, ils ne sont jamais le même nombre, variant entre 5 et 12, et changent de costume à chaque fois. Ils se donnent des surnoms bidons comme Laglu, Schubert, Goliath, Athos, Milor, Tintin et Baragouine en verlan, yiddish ou en argot. De quoi les rendre insaisissables. Et puis, dur de les pister.
Eux-mêmes ne savent pas où se fera le prochain casse. C'est au feeling qu'ils choisissent les banques à braquer. Alors que la police s'arrache les cheveux, les postiches utilisent leur butin pour partir au bout du monde. Tous les étés, direction l'Asie, les États-Unis, la Turquie ou encore l'Afrique pour des safaris. Ces gamins des rues se parent de vêtements de luxe, Rolex au poignet et des mains sur le volant d'une Rolls-Royce ou d'une Lamborghini. Un postiche plus casanier reste à Paris et rappelle les autres à la fin de l'été. « Allez les gars, on y retourne maintenant !» L'enquête est au point mort. Deux fois, les postiches oublient d'emporter des vidéos de surveillance. Mais la police passe à côté, même lorsque Paris Match publie les photos. La BRB fait son enquête avec ses éléments. En mars 1984, le plan Ballon est mis en place. Des capteurs sismiques sont installés dans les salles de coffres et se déclenchent au bruit. À la moindre alerte, l'anti-gang et la BRB se rendent sur place. Évidemment, pour la plupart, ce sont des fausses alertes. Le 14 janvier 1986, c'est le casse de trop. Les postiches ont pour projet de s'acheter un bateau à 5 millions de francs pour faire le tour du monde. Avec leur femme, il en faut deux. Les 10 millions, ils les ont, mais ne veulent pas toucher au capital. Pourquoi ne pas se refaire un petit casse ? Rue du Docteur Blanche, dans le 16e arrondissement de Paris, le braquage prend l'eau. L'alarme se déclenche, 67 policiers et 31 véhicules de l'anti-gang et de la BRB déboulent. Rien ne se passe comme prévu. Bilan, deux morts, un inspecteur et un postiche. Le cadavre du postiche est vite identifié, c'est Berliner. À partir de là, tout s'enchaîne. La planque rue de Belleville est fouillée, des preuves, dont une partie du butin, sont retrouvées. Marguerite, Belaïche, Miska et Jay sont identifiés. Après 5 ans de cache-cache, la police a enfin mis la main sur le gang des postiches. En 1996, la cour d'assises de Paris condamne Marguerite et Miska à 12 ans de prison pour 7 braquages. Belaïche obtient un non-lieu pour les hold-up, mais écope de 8 ans de prison pour recel et association de malfaiteurs. En cavale, Patrick Jay est rattrapé en 2003 et condamné à 17 ans de réclusion criminelle. Que sont-ils devenus depuis ? Toujours incarcéré, Jay continue de nier en bloc son appartenance au gang des postiches. Les autres ont tous, quoi qu'il en soit, eux aussi, définitivement raccroché la perruque.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler du gang des postiches, nous sommes avec celle dont les écrits, les articles nous ont permis de raconter cette folle histoire, la journaliste qui a enquêté pendant de nombreuses années sur le sujet, Patricia Touranchot. Bonjour Patricia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, le temps que Stéphane réajuste son toupet, et on en parle avec vous dans un instant.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, et nos porteurs de postiches continuent. On parle peut-être des plus célèbres d'entre eux, les braqueurs du gang des postiches, avec notre invitée Patricia Touranchot.
Oui, Patricia Touranchot, vous êtes journaliste, célèbre plume de Libération. Vous avez été chef de la rubrique Police, banditisme et faits divers pendant presque 30 ans, et vous êtes notamment l'auteur de Postiche, paru chez Fayard, et Le Magot aux éditions du Seuil. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce gang des postiches et qui a fait que vous vous y êtes intéressé? J'ai envie de dire plus que d'autres de vos confrères.
Parce que déjà, avant d'être journaliste de faits divers, j'étais passionnée en 84 par la lecture des articles sur le gang des postiches qui était alors à son apogée. Et quand je me suis retrouvée à m'occuper des faits divers, de police et de bandits à Libération, j'ai assisté à leur procès d'assises à Paris en 96. Et là, il y en avait 3 dans le box. Et ces 3 gars-là dans le box, franchement, c'était du grand guignol. Ils ne disaient pas 10% de la vérité. Et moi, j'étais en face dans le box de la presse et je me disais, non mais ces types-là, il faut vraiment que je les retrouve après. Parce que là, ils vont vraisemblablement retourner tous en prison, mais je ne les lâcherai pas et un jour, j'arriverai à percer leur petit secret.
Et alors, c'est rigolo parce qu'à la fois, il y a ce côté un peu théâtral à la limite de la farce, mais il y a aussi quand même un côté hyper pro dans leur mode opératoire qui était savamment orchestré. C'est ça qui fait un peu l'ADN du gang des postiches ?
Oui, tout à fait, vous avez raison, parce que ces types-là, quand même, c'était des petits voleurs de Belleville dans les années 60, 70, et ils ont une grande expérience des banques, parce que dans les années 70, ils ont quand même fait des gros coups. Hein. Donc, en 81, finalement, les banques ont tellement souffert de ces épidémies de braquage dans les années 70 qu'ils ont commencé à installer des sas de sécurité. Les banques ne laissent plus que 30 000 francs dans les caisses que les voleurs peuvent en fait prendre lors des hold-up au guichet. Et donc, les postiches se disent dans un bar de Belleville, on va trouver autre chose. Et donc, ils inventent cette idée incroyable de braquer les petits coffres que les particuliers louaient dans les banques pour planquer l'or, les bijoux, du cash, des tableaux, de l'argenterie, etc. Donc, l'équipe est extrêmement bien préparée. Au sein des postiches, il y a un groupe de braqueurs qui s'appelle les élégants, qui pénètrent dans la banque et qui vont tenir en respect tout le rez-de-chaussée de la banque. Et puis, la deuxième équipe, ce sont les casseurs qui vont aller taper au marteau et au burin ces petits coffres et atteindre une cadence d'ailleurs incroyable, puisque moi j'ai compté en 8 secondes, en moyenne, ils ouvraient un coffre.
Patricia, après ces 27 gros braquages, ça a fini par mal tourner cette histoire, avec le meurtre d'un policier et d'un membre du gang en 1986. Ah, oui. Comment cette fusillade a-t-elle été déclenchée ?
En fait, la police, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, a mis en place un plan ballon, donc un dispositif anti-postiche avec les alarmes sismiques dans les banques. Et donc, rue du Docteur Blanche, le plan ballon, l'alarme se déclenche. Les consignes édictées par la police, et surtout, on ne les arrête pas à la sortie de la banque. C'est trop dangereux, c'est en pleine rue, c'est en plein Paris. On les prend en filature discrètement et on les arrêtera plus loin dans leur plan qu'ailleurs. Or, un commissaire qui était à l'époque le chef de la brigade de répression du banditisme se croit reconnu par deux postiches qui viennent de sortir de la banque et qui sont montés dans leur voiture. Il jaillit de son véhicule de police et il tire sur le pare-brise à plusieurs reprises du véhicule de deux gangsters. Et ces coups de feu-là, évidemment, alertent les autres bandits, les trois autres. Et à ce moment-là, un des enquêteurs, Jean Vrins, sort de son véhicule et tire sur Bruno Berliner, un postiche, qui lui tire dessus. En gros, les deux s'entretuent.
C'est la faute des flics, me souffle Stéphane. Je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, Stéphane.
J'ai rien dit, Patricia. J'ai rien dit. Il me fait dire des choses que je n'ai pas prononcées.
Patricia, l'affaire du gang des postiches n'a pas encore livré tous ses secrets, vous avez publié plus récemment Fourniret et le gang des postiches, mortelle rencontre aux éditions du Seuil. Quel est le lien entre le serial killer pédophile Michel Fourniret et le gang des postiches?
Alors, de lien direct, il n'y en a aucun. Mais ce qui est incroyable dans cette affaire, c'est que le gang des postiches, ils avaient enterré 36 lingots puis des milliers de pièces d'or dans un cimetière. Et ensuite, ils sont arrêtés et partent en prison. Un jour, un Italien qui était avec eux lors de l'enfouissement de ce trésor, il se trouve dans la prison de Fleury-Mérogis avec Jean-Pierre Elgouarche, un voyou breton plus politisé qui lui-même avait été codétenu dans la même cellule que Michel Fourniret. À un moment donné, l'Italien Esposito, donc trahit le gang des postiches, indique au breton politisé Elgouarche où se trouve la cachette d'un trésor pour se l'approprier tous les deux, en fait. Et Elgouarche, ne sachant pas à qui demander dans son entourage, puisque ce sont que des voleurs, donc ils vont le voler. Donc, il pense à Fourniret, qu'il prend pour un brave type qui a dérapé, en gros, et Elgouarche, en fait, c'est comme l'erreur. Ils s'en mordent les doigts et ils culpabilisent, évidemment. Il envoie sa compagne Farida avec Fourniret et la femme de la compagne de Fourniret déterrer Smago. Et ensuite, Farida disparaît. Disparaît à jamais, puisque Fourniret va s'emparer de tout ce stock d'or. Fourniret, avec cette fortune, il va s'acheter un château, des fourgonnettes avec lesquelles il enlèvera les petites filles, des appartements. Et bref, il va vivre sur ce tas d'or pendant ses 15 ans de carrière criminelle. Donc c'est un truc. Et les postiches, ils en sont malades.
Ah oui, mais je comprends, parce qu'en plus, c'était un peu des Robins des Bois, mais dévalisant
les Robins des Bois qui
n'ont
pas visiblement beaucoup distribué.
Non, c'est vrai, mais bon, en tout cas, merci Patricia Touranchot. Je rappelle le titre de votre livre, Fourniret, le gang des postiches, mortelle rencontre, publié aux éditions du Seuil, et évidemment Postiche, paru chez Fayard. Merci pour cet éclairage éblouissant.
Merci beaucoup, au revoir.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui portaient la perruque. Parfois, c'était un secret. Comme pour notre troisième personnage du jour, Mathieu. Mais vous nous brossez le portrait à 99% vrai du tennisman André Agassi, dont je ne savais même pas qu'il avait une moumoute.
Eh oui, chers auditeurs, cette chronique sera à l'image de la chevelure de Stéphane Bern.
C'est à la fois un peu vrai, mais aussi un peu faux.
99% vrai. On peut féliciter Stéphane d'avoir d'ailleurs eu le courage de prendre la parole publiquement pour révéler à ses fans que tout sur son crâne n'était pas 100% d'origine. Les temps ont un peu changé, c'est vrai, grâce aux chauves sexy, Zidane, Jason Statham, Harry Roselmack. Mais longtemps, comme dirait David, être chauve, c'était pas hyper cool, c'était même carrément le seum. Jusqu'aux années 80, aucun homme n'acceptait d'être chauve avant 40 ans. Avoir des poignées d'amour, ok. 2 cm de pénis en moins que la moyenne nationale, ok. Un troisième téton passe encore, mais chauve, ça, jamais. Hélas pour eux, la technologie ne permettant pas encore de faire des miracles aussi stupéfiants de réalisme que cette crinière synthétique qui surplombe Stéphane et qui est en fait un hologramme en 3D, il faut le savoir, les hommes des années 80 n'avaient qu'une seule solution devant l'érosion capillaire, une solution ridicule qui était encore pire finalement que le mal lui-même, la perruque. Objet qui m'a toujours fasciné puisque, sauf à y cramer son PEL en investissant dans une perruque ultra haut de gamme, porter une perruque lambda, comme on voit que c'est une perruque, revient simplement à s'accrocher sur le crâne un petit panneau lumineux où clignoterait la phrase « Regardez comme je suis chauve !» Eh bien, chauve, André Agassi, la star du tennis des années 90, le fut très jeune. Dès ses 19 ans, il assiste désemparé à la débâcle folliculaire. André raconte. Chaque matin, je me levais et je trouvais un autre bout de mon identité sur l'oreiller, dans le lavabo, dans le trou de la baignoire. Alors je me suis demandé, tu veux porter une perruque? Vraiment, sur un court de tennis? Et je me suis répondu à moi-même, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Il va donc commettre l'erreur fatale, selon le magazine JQ, ce qu'on appelle « the moumout mistake ». Comment en est-il arrivé là? On dit que la chute de cheveux précoce est souvent liée au stress. Le petit André aurait-il dû encaisser une dose anormale de stress dans son enfance? Oh, connaissant son père, non! Son gentil papounet, ancien boxeur qui a toujours veillé à son équilibre psychologique en lui mettant une raquette de tennis dans les mains quasiment en même temps qu'un hochet. Allez petit con, tu veux ton biberon? Alors rattrape! Une description à peine exagérée, puisque lorsqu'André était bébé, son papa lui scotchait des raquettes de ping-pong au poignet et le faisait frapper des petites balles de tennis accrochées à un mobile. Et oui, à 2 ans, André ne sait pas s'essuyer tout seul, mais il maîtrise l'art du service. À l'âge de 6 ans, son gentil papa le force à attraper 2500 balles par jour. Il voulait qu'il en frappe 1 million par an sur un court de tennis qu'il a construit lui-même dans le jardin. Il installe également une terrifiante machine à cracher des balles appelée le dragon, qui les propulse à plus de 150 km/h. Sur son bout de chou. Élevé de la sorte, Françoise Dolto nous le dit, un enfant n'a que 2 horizons possibles, intégrer un hôpital psychiatrique ou l'élite du tennis mondial. André va choisir l'élite du tennis mondial, non sans avoir brillé à la célèbre Nick Bollettieri Tennis Academy, sorte d'usine à champions en Floride, d'où il sort en 1986 avec une niaque phénoménale et aussi un look phénoménal. Tenue flashy, attitude de bad boy, cheveux sauvages, Agassi casse les codes, il fascine, il agace, il plaît aux filles et il décroche très vite un contrat avec Nike avant même d'avoir remporté le moindre tournoi. Des titres qui ne vont pas tarder à arriver, 92 Wimbledon, son premier grand chelem, victoire à l'US Open en 94, puis l'Open d'Australie en 95. Dans ces années-là, la folle crinière d'Agassi est sa marque de fabrique, seulement voilà Stéphane, tout est fou. Depuis 4 ans déjà, André porte un toupet. Ce qui lui complique considérablement la tâche à chacun de ses matchs. Imaginez devoir affronter les meilleurs joueurs mondiaux, déjà c'est coton, mais les affronter en ayant peur à chaque seconde que votre moumoute se décroche devant les caméras du monde entier, c'est un enfer. C'est pourtant ce que va vivre André Agassi durant plus de 5 ans de carrière. Plus de 140 matchs de haut niveau à se dire intérieurement, comme Olivier quand il honore Madame Pouls, pourvu que ça tienne jusqu'au bout. En gros, il se met lui-même dans une situation inconfortable, s'enlise dans son mensonge puisque sa chevelure est devenue sa marque de fabrique. Comment réagiraient ses fans, ses sponsors, si jamais la moumoute s'envolait en plein match? Certainement aurait-il été aussi choqué que la fois où Stéphane Bern a imité Jean-Marie Le Pen, comme ça en pleine émission, sans nous prévenir.
On se souvient de Jeanne d'Arc, n'est-ce pas?
André veut épargner un tel choc à son public. Alors il s'obstine. Plus tard, il racontera qu'il portait la moumoute dès Roland-Garros 1990, donc il avait à peine 20 ans, et la nuit avant la finale ressemble à un sketch de Benny Hill. Sa perruque tombe alors qu'il prend sa douche. Il se retrouve avec un ragondin mort entre les jambes et un héliport sur le haut du crâne. C'est la panique. Il appelle son frère au secours. Ils réussissent à la refixer in extremis avec une 20aine de clips, pour ne pas dire des barrettes. « Tu penses que ça va tenir ?» il demande à son frère. « Oui, si tu ne bouges pas trop, » lui répond ce dernier. Ça tombe bien, c'est pas comme si le gars devait jouer la finale d'un grand chelem le lendemain. C'est sa première grande finale contre Andrés Gómez et il ne pense qu'à une seule chose, sa perruque, tel un transformiste de chez Michou. À chaque bond, je l'imaginais tombant par terre. Je voyais des millions de téléspectateurs se rapprocher de leur écran, les yeux écarquillés, se demandant dans des dizaines de dialectes et de langues comment les cheveux d'André Agassi étaient tombés de sa tête. Résultat, 6-2, 2-6, 6-4, 6-4, avantage Gomez. Agassi tient la perruque pour responsable et, encouragé par sa compagne de l'époque, l'actrice Brooke Shields, il l'abandonne et se rase la tête en 94. Adieu, petit ragondin. L'effet psychologique est immédiat. Je me suis senti tellement plus libre, raconte André. Je détestais me sentir comme un fraudeur. Lorsque vous n'êtes pas honnête avec vous-même, c'est un sentiment usant. J'étais fatigué de faire semblant. Alors vous allez me dire, si Agassi se sent libéré et qu'il peut enfin jouer sans crainte de perdre sa moumoute, il va enchaîner les grands chelems graves. Eh ben non, c'est tout l'inverse qui se produit. André entre dans une phase de doute, il bafouille son tennis, bientôt il ne met plus une balle dedans. Comme Stéphane dans cette émission sur le Mexique que vous entendrez bientôt quand on aura fini le montage parce que, comme vous allez l'entendre, il y a du boulot.
Nous sommes le 30 juin 1520 à Tenochtitlan. Aujourd'hui devenu Mexico City. Plus facile à prononcer, c'est vrai.
Comme Stéphane dans le classement des animateurs préférés des Français, André Agassi dégringole à l'ATP. On apprend dans la presse People qu'il prend du Cristal Meth et qu'en plus il n'assume pas. Après un contrôle positif, il affirme qu'il a pris la substance involontairement. Dédé écrit une lettre officielle à la Fédé en expliquant que c'est la faute de son assistant Slim qui lui en a mis dans son soda et que, sans faire exprès, il a bu le soda de Slim, son assistant. Flûte alors, ben oui, ça se tient. Autant pour nous, André, désolé, ça passe crème. Bref, à ce stade de sa carrière, tout le monde se dit qu'Agassi aura été, bon, une étoile filante du tennis mondial et qu'il s'est cramé, que c'est fini. Sauf que pas du tout. Car il faut croire que se prendre des balles dans la tronche en mode rafale par le dragon dès l'âge de 6 ans, ça te fortifie un bonhomme. On aurait peut-être dû essayer d'ailleurs avec nos tennismen français, ils auraient peut-être plus brillé à Roland-Garros que dans les pubs Kinder Bueno. Agassi, lui, remonte la pente avec un objectif, redevenir le meilleur. Et quand vous voulez réussir dans la vie, vous connaissez le mot magique, Stéphane.
Déshabillez-vous.
Non, l'autre. Le travail, Stéphane, le travail. À force d'entraînement, Dédé le Phénix renaît de ses cendres et remporte Roland-Garros et l'US Open. Tac. Dans la foulée, il éjecte aussi Brooke Shields, ça lui rappelle sa période mulet, ça l'agace, et il pécho son rêve ultime. Sa plus belle victoire, comme il le confie avec beaucoup de romantisme, la star du tennis féminin, Steffi Graf. C'est lui qui fera le premier pas en lui envoyant une carte d'anniversaire assez cash, je vous la lis. Je ne veux pas de malentendu, je suis sûr que tu es déjà au courant que Brooke et moi c'est fini. Je te trouve sublime et fascinante, accepterais-tu de déjeuner, dîner, prendre un café ou te balader avec moi? Peu importe, j'aimerais vraiment apprendre à te connaître. C'est clair Stéphane, il n'a déjà qu'une idée en tête.
La baiser.
L'épouser Stéphane, l'épouser. L'épouser, il est romantique. Ce qu'il fera en 2001, au terme d'un admirable forcing, la joueuse allemande ayant d'abord, paraît-il, un peu résisté.
Faites ce que vous voulez, mais ne me touchez pas.
Finalement, elle a craqué. Et bien, ils fêtent cette année leurs 20 ans d'amour et pèsent à eux deux 205 millions de dollars. Je sais ce que vous dites, Stéphane. Pourquoi peser 205 millions à deux quand on peut les peser tout seul, comme vous? Mais ça, c'est l'amour, vous ne pouvez pas comprendre. Laissez tomber, Stéphane.
Non, je veux comprendre. 205 millions, c'est
oui, le chiffre
out of my,
mind. My range.
Oui, of my range, absolument. En tout cas, merci Mathieu. C'était sympathique votre récit avec émaillé de sonore qui m'amuse toujours.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour et de ranger nos perruques.
Salut les moumoutes.
Mais qu'on pense évidemment à tous ceux et toutes celles qui en portent pour des raisons moins drôles, et ça je le dis très sincèrement.
Mais oui.
Parce que voilà, je connais des gens qui, ayant un cancer,
ça arrive
portent des perruques. Et voilà.
Ça nous touche. Et comment rebondir sur quelque chose d'humoristique, c'est difficile. Mais nous allons le faire néanmoins avec nos deux Olibrius, David Castello-Lopez et Olivier Pouls. Olivier, aujourd'hui, vous nous parlez de serpents, les aspics.
Mais le plat, bien évidemment, pas le serpent. Celui-là, on le mange pas.
Le plat, et vous nous expliquerez pourquoi on appelle les œufs en gelée un plat qui revient un peu à la mode.
Oui, j'adore ça.
Olivier, est-ce que ça se fait en deux temps trois mouvements?
Oui.
Oui, ça tombe bien, c'est l'expression que Stéphane va nous expliquer tout à l'heure, en fin d'émission, le mot de la fin. Stéphane, mais tout de suite. David Castello-Lopez réfléchit, il pèse les mots pour sa chronique qui arrive sur l'origine du casque de vélo. Car oui, un jour, quelqu'un a inventé le casque de vélo.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi remonte aux origines des objets de notre quotidien avec ce farfouilleur de l'histoire, David Castello-Lopez. Aujourd'hui, vous nous avez déjà parlé du casque de moto.
Oui.
On sait maintenant d'où ça vient. Je m'en souviens d'ailleurs, je pourrais même le dire si on avait le temps, si je m'en souvenais. Mais le casque de vélo, voilà un objet intéressant.
Je pense que le casque de vélo, c'est le dernier élément de sécurité routière qui divise encore un petit peu dans les sociétés occidentales. Il n'y a plus personne qui se fait traiter de bouffon parce qu'il met un casque de moto. Il n'y a plus personne qui se fait traiter de bouffon parce qu'il met sa ceinture de sécurité. Mais il y a encore un léger ridicule attaché au casque de vélo. Léger. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui trouvent que c'est un peu une précaution exagérée, que ça va, c'est bon, je roule pas vite, vous voyez. Et alors que c'est vrai, je pense que c'est vraiment le dernier. Et résultat, dans les villes françaises aujourd'hui, il y a qu'un cycliste sur quatre qui met un casque. Et a priori, c'est une assez mauvaise idée de ne pas mettre de casque parce que le vélo, c'est dangereux en fait. Selon les données dont on dispose, à temps de trajet égal, les cyclistes, ils ont 3 fois plus de chances d'être tués que les automobilistes et 4 fois plus de chances d'être tués que les piétons. Et moi, du coup, bah, évidemment, ça m'a donné envie de savoir depuis quand est-ce que ça existe, ce casque de bouffon qu'on refuse de mettre. Bon, le vélo, en gros, ça date de la fin du 19e siècle. Et bien sûr, il s'est pas passé super longtemps avant qu'on remarque que quand on se viandait la face sur le macadam à 50 bornes à l'heure, eh bien, c'était très mauvais pour la santé.
Si vous roulez à 50, vous êtes déjà un bon cycliste, de bon niveau.
En descente. Et donc, on a fabriqué des casques qui étaient un peu des casques de fortune. En gros, c'était un boudin en cuir qu'on se mettait autour du front avec éventuellement des boudins supplémentaires sur la longueur du crâne. Et ça, ça a perduré sous des formes légèrement plus évoluées jusqu'aux années 70. Et il y a un monsieur qui s'appelle Randy Swart, qui est cycliste et qui tient aussi le site internet de l'association pour la défense du casque à vélo dans le monde.
Ça existe.
Et ce monsieur raconte que dans les années 70, il portait ses casques en cuir comme celui que j'ai décrit. Et puis un jour, il a posé la question à un cycliste plus expérimenté que lui. Il lui a demandé, dit ça protège vraiment là les trucs qu'on a sur la tête. Et l'autre lui a répondu, alors non, hein, franchement, en ce qui concerne l'impact de ta face sur le sol, ça change rien. En revanche, ça empêche tes oreilles d'être arrachées par le frottement de ton visage sur l'asphalte. Et c'est déjà ça. Je veux dire, c'est déjà ça.
Ça
empêche pas de mais ça chauffe les oreilles. Et puis petit à petit, à partir du milieu des années 70, on a commencé à développer des casques à vélo qui protégeaient vraiment. Et dans les années 90, on a trouvé un bon compromis dans les casques qu'on connaît tous. Aujourd'hui, des casques en polystyrène expansé recouverts d'une fine coque en plastique avec de l'aération un petit peu partout. Et ces casques, ils sont généralement conçus pour résister à des chocs à une 20aine de km/h. Alors, personne ne conteste plus le fait que porter un casque quand on fait du vélo, ça vous protège en cas de chute. Mais depuis plusieurs années maintenant, il y a un débat profond qui traverse le monde du casque de vélo. Et ce débat, c'est est-ce que c'est vraiment une bonne chose d'un point de vue de la santé publique d'obliger les gens à mettre un casque? Et la réponse, super contre-intuitive, c'est probablement pas. Et ce, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le degré de protection du casque. Je m'explique ces raisons. Il y en a deux. La première, c'est qu'il y a des recherches qui tentent à montrer que le fait de porter un casque,
on va plus vite.
Ça augmente le risque que le cycliste ait un accident. En 2006, il y a un chercheur et cycliste anglais qui s'appelle Ian Walker qui a fait une expérience. Il a attaché une caméra à son vélo et il a filmé pendant des heures et des heures ses trajets. La moitié du temps, il portait un casque, l'autre moitié du temps, il en portait pas. Résultat, les automobilistes passaient beaucoup plus près de lui quand il avait un casque que quand il en avait pas. Les automobilistes, ils se disaient, bah le type il a un casque, ça doit être un pro, voyez. Mais du coup, le risque d'accident était plus élevé. Et l'autre raison, c'est qu'il arrive que lorsqu'on oblige les gens à porter un casque, eh bien tout simplement, ils arrêtent de faire du vélo, notamment parce que c'est relou de se trimballer un casque. En Nouvelle-Zélande, par exemple, où le casque de vélo il a été rendu obligatoire en 94, eh bien la pratique du vélo, elle a diminué de 50% en 15 ans. Or ça, c'est mauvais pour au moins une raison, c'est que le vélo, c'est souvent le seul sport que les gens pratiquent régulièrement. Or faire du sport, c'est vraiment super bon pour la santé. Au point que selon certains chercheurs, si on oblige les gens à porter un casque, certes, il y aura moins de gens qui mourront d'un accident. Mais comme il y aura aussi moins de gens qui feront du vélo, il y aura plus de décès liés, par exemple, à des maladies cardiovasculaires. Et voilà. Donc, peut-être que obliger les gens à porter un casque à vélo, c'est pas si bon que ça pour la santé de la population. À vous de faire votre choix.
Et vous, quelle est votre opinion sur la question, David?
Mon opinion, c'est que ce serait important d'en porter, mais ça m'ennuie, en fait.
ça nuit à votre style de...
Voilà. On en fait de très joli, maintenant.
C'est vrai, mais c'est plutôt genre, vous êtes dans la rue, vous prenez un Vélib, est-ce que vous trimballez un casque en permanence dans votre sac pour au cas où...
Vous prenez un Motolib, vous êtes obligé d'avoir un casque.
Oui, c'est vrai. Mais c'est précisément parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un casque qu'on prend plus le vélo.
Voilà. Je remercie David.
Oui.
Et je précise qu'on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Excellent site europe1.fr. Vous retrouverez dans quelques minutes également la chronique d'Olivier Pouls avec sa petite recette et l'histoire d'un plat. Olivier, vous nous parlez des aspics.
c'est quelque chose qui est un peu daté quand même, la suite. Même si aujourd'hui, quand on passe chez les traiteurs, on les voit revenir.
Mais pourquoi ça s'appelle les aspics?
Mais oui, pourquoi?
Alors, déjà, expliquez-nous.
Eh bien, parce que l'aspic tel qu'il est, c'est-à-dire donc un produit qui est composé de viande, de légumes, le tout entouré d'une gelée, qui n'était pas toujours très claire quand on savait pas bien les clarifier à l'époque, eh bien, ça avait l'aspect d'une peau de serpent. Ça ressemblait à la peau de l'aspic. Mmh. Et c'est pour ça qu'on les a appelés des aspics, parce que ça faisait penser à des aspics, tout simplement. Et il faut savoir qu'on peut pas dissocier donc les aspics de la gelée. Et la gelée, c'est quelque chose qu'on utilise fréquemment depuis le Moyen-Âge. On s'est rendu compte que dans un certain nombre de viandes, comme la volaille, le porc ou le bœuf, il y avait des matières qui avait tendance à donner un aspect de gelée. Vous savez, les pieds de porc, par exemple, contiennent un gélifiant naturel. Et donc, en faisant une gelée de pieds de porc, bah, quand on la laisse refroidir, ça fige et ça donne une gelée. Et c'est de là qu'est née cette préparation, parce qu'au début, on enrobait des restes de cuisine, c'est-à-dire, par exemple, des morceaux de viande, des légumes, etc., de cette gelée. Alors, ça permettait d'une part de les protéger, parce que du coup, ils n'étaient pas à l'air, ils ne s'oxydaient pas, et il n'y avait pas de bactéries non plus qui pouvaient les agresser. Et donc, cette gelée, elle avait plus qu'un aspect esthétique, elle avait aussi un aspect intéressant pour la conservation de ces produits. Le premier à s'être vraiment intéressé à ces gelées et aux aspics, dont c'est le chef Marie-Antoine Carême, dont on a parlé ici il y a déjà
quelques semaines,
qui était un chef absolument révolutionnaire, qui a inventé énormément de choses, presque la cuisine contemporaine, on pourrait dire. Et lui s'est beaucoup intéressé à ces jets, et il en a surtout beaucoup perfectionné les techniques d'extraction et de clarification. Parce que si vous faites une gelée chez vous, en prenant par exemple, prenez une carcasse de poulet, vous mettez de l'eau, vous laissez réduire pendant 2 ou 3 heures, ce que vous allez récupérer, le jus à la fin, si vous le laissez refroidir, c'est une gelée.
Mais alors, est-ce
parce qu'il y a du collagène, dans la carcasse de poulet, c'est ce collagène qui va vous donner un gélifiant naturel.
Mais est-ce que c'est très gras, est-ce que c'est très calorique la gelée?
Pas du tout.
Ah, parce
pas
que on, l'aspect, moi je me suis toujours dit, moi je mange jamais, je mange pas trop.
Pas du tout, parce qu'au contraire, quand vous faites par exemple cette gelée naturelle à base de carcasse de poulet ou de pied de porc, vous allez la clarifier, vous allez donc la laisser reposer et vous allez voir que le gras va remonter par-dessus, donc celui-là vous allez pouvoir l'écrémer. Et puis maintenant on a même des techniques de clarification à base de blanc d'œuf, c'est-à-dire qu'on va battre des blancs d'œufs, on va les laisser tomber dans le récipient, et en tombant les blancs d'œufs, ils ramassent en quelque sorte, ils jouent un rôle de filtre, ils vont ramasser toutes les petites impuretés, ils vont descendre dans le fond et vous aurez une gelée qui sera parfaitement clarifiée. Mais il y a encore plus simple aujourd'hui, puisqu'on travaille aujourd'hui avec des gélatines naturelles.
L'agar-agar.
Alors, l'agar-agar, par exemple, qui est une algue japonaise qui est très efficace, un très bon gélifiant. Et puis sinon, vous savez, les fameuses traditionnelles feuilles de gélatine que vous pouvez acheter. Et donc, les aspics, c'est aujourd'hui quelque chose qui revient, et on en fait de plein de sortes. Moi, je vais vous donner la recette, parce que je l'aime beaucoup. C'est le traditionnel œuf en gelée. Je trouve que quand c'est bien fait, c'est quand même vraiment délicieux. Alors, mais il vous faut des œufs. Pour 4 personnes, 2 œufs, 25 centilitres d'un bouillon, un bouillon de volaille ou un bouillon de légumes par exemple, 3 feuilles de gélatine, un peu de jambon, quelques dés de légumes qui sont déjà pré-cuits, carottes, céleri, petits pois par exemple, ce que vous voulez, un petit peu de ciboulette. Vous allez faire bouillir votre bouillon. Dans le bouillon, vous allez rajouter les feuilles de gélatine, vous allez bien mélanger tout ça, vous laissez un peu refroidir. Dans un moule, vous coulez un tout petit peu de bouillon avec un peu de ciboulette. Mm-hmm. Vous mettez au frais, vous laissez prendre. Donc là, ça va déjà gélifier. Ensuite, vous cuisez vos œufs mollets, un demi-œuf qui est posé dedans, les petits dés de jambon. On remet du bouillon, on remet au frais à nouveau le temps que ça prenne. Et vous avez un œuf qui est pris dans cette gelée.
Ah, c'est génial,
c'est extrêmement simple à faire.
Ça peut être marrant avec les enfants aussi.
Bien sûr, non, et puis avec les feuilles de gélatine ou de l'agar-agar. Alors, l'agar-agar, c'est une demi, il en faut très peu, une demi-cuillère à café, ça suffit dans votre bouillon pour le gélifier.
J'allais vous le dire, l'agar-agar, point trop n'en faut. Merci beaucoup, Olivier.
Qu'on peut retrouver toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr. On vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte, 11h, 12h30 sur Europe 1.
Il sait tout, il connaît tous les mots de la langue française, tout le dictionnaire dans sa tête. C'est Stéphane Bern. Chaque jour, l'histoire d'une expression, Stéphane. Mais si, ne soyez pas humble comme ça. En 2 temps, 3 mouvements.
Oui, c'est la fin de l'émission. Je vois que tout le monde est pressé. C'est pourquoi je vais vous faire, une fois n'est pas coutume, cette chronique en 2 temps, 3 mouvements. D'où vient cette expression ?
Alors, je me souviens, vous nous aviez déjà régalé avec l'expression en deux coups de cuillère à peau. Là, c'est un peu la même ambiance. Ça veut dire qu'on fait ça rapidement, vite fait, pas forcément bien fait d'ailleurs.
Oui, à toute berzingue, si vous préférez d'ailleurs. À toute berzingue vient du mot picard, brin de zing, qui signifiait ivre. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos deux temps, trois mouvements. Les générations bénies qui ont eu la chance de servir sur le drapeau et qui ont appris avec ravissement pêle-mêle l'amour de la patrie, la fierté de marcher au pas et de porter convenablement un béret le savent. Quand on présente son fusil lors d'une revue militaire, on ne le fait pas n'importe comment. Le fusil est à ses pieds. Il convient d'abord de le ramener au niveau de la ceinture, puis de l'élever à l'épaule, soit en deux temps.
Ah.
Le trois mouvements est arrivé sous forme de blague, pour accentuer la rapidité probablement durant le 19e siècle, à moins que cela ne vienne du solfège. Dans la musique militaire, la mesure à deux temps est largement utilisée. Les temps forts et faibles se succèdent, et trois mouvements constituent un ensemble régulier qui était propice au défilé. Clémenceau ne disait-il pas « La justice militaire est à la justice, ce que la musique militaire est à la musique ». Donc il y a deux explications
qui se rejoignent finalement.
Qui se rejoignent, ça reste militaire. En musique ou pas en musique. En anglais, pour dire en deux temps trois mouvements, on dit « in the blink of an eye », comprenez, en un battement de cils. En néerlandais, on utilise « dans un juron et un soupir ». C'est vous dire que ça va souvent vite. C'est très beau. Au Portugal, alors là, je me lance.
Oui, c'est beau.
Je me lance. Oui. J'ai l'impression que c'est kamikaze, vous voyez.
C'est,
un suicide devant David. Oui. En cuanto o diablo es frega un olio.
Ah, pendant que le diable frotte la sauce.
Oui, juste le temps. Alors, non, c'est juste olio, c'est pas la sauce, c'est l'œil.
Moyo, ou moyo.
Ah,
moyo, olio, ou olio. Oui,
c'est une autre
proche,
expression
oui.
que Stéphane utilise parfois, mais c'est pas le même sens. Alors, Stéphane, revenons à l'expression.
C'est la sauce, c'est pas la même chose que ça, c'est l'œil.
Non, une autre expression portugaise. Pardon. Ah, les vacances au Portugal avec Stéphane, on s'ennuie pas, je peux vous dire. Mais... Alors.
C'est-à-dire, le temps, mes amis portugais me comprennent. Allez, ok, dis-le en français. Alors, je le dis en français, juste le temps pour le diable de se frotter l'œil. Ça ferait presque frissonner.
Oui.
Pardon, David.
Moins que l'autre expression.
Frottez la sauce.
Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève, les amis. Particulièrement cocasse, puisqu'il était dédié à ces personnages de l'histoire qui ont eu recours à la moumoute.
Tournez-vous un peu.
Oui. Quoi ?
Ah bah oui, oui, songez-y, entrez dans les ordres.
Ne dites pas n'importe quoi, Stéphane, je suis dans la fleur de l'âge.
La fleur de sel, plutôt, vu la couleur de vos cheveux.
Stéphane, vous êtes dur avec moi, mais j'aurai quand même plaisir à vous retrouver demain.
Mais plaisir partagé, Mathieu, vous avez bien vu, on se taquine tous les jours. C'est le plaisir d'Historiquement Vôtre, alors à demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.